France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
La nuit rêvée de Yannick Hennel, écrivain. Bonsoir Yannick Hennel.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, romancier, essayiste et théoricien de la littérature. Vous êtes couvert de prix, prix Décembre, prix Interallier, prix du roman FNAC. Et récemment d'ailleurs pour votre dernier livre, Je cherche l'Italie, le prix de la Sérénissime. Vous allez d'ailleurs nous expliquer ce que c'est très vite. Je crois que ça doit être un prix vénitien forcément.
C'est un prix qui est remis à Venise. Voilà.
Quelle chance. Et,
ça consiste en un week-end où on refait connaissance avec le Grand Canal. Voilà.
Alors, mais avant de parler de vos livres et des raisons pour lesquelles vous avez choisi les archives que nous allons entendre cette nuit, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que vous êtes aussi un homme de revue. Alors, vous en avez créé plusieurs, vous écrivez actuellement pour Ligne de Risque. Et la première fois que vous êtes intervenu sur France Culture, c'était donc il y a 20 ans, dans Les Idées en Revue. Alors, pourquoi les revues sont-elles si importantes pour vous, Yannick Hennel? Est-ce que c'est précisément parce qu'elles jouent à la fois et sur l'immédiat et sur l'intemporel?
Oui, il y a ça, évidemment. Il y a l'idée qu'on écrit seul, mais on publie à plusieurs. Il y avait aussi, à l'époque, avec mes amis, surtout François Méronis, avec qui j'ai fondé plusieurs revues, il y avait l'idée d'essayer d'échapper d'une certaine manière au champ littéraire homologué, à ce qu'il peut y avoir de pire dans le système de la représentation littéraire. Donc on a fait nos gammes à travers des revues, et pour se préparer, disons, et pour accompagner de manière plus ésotérique, peut-être, la publication de romans ou d'essais. J'ai toujours aimé les revues, moi, telles quelles, les Cahiers de Lerne. J'aime ça, je sens une liberté transversale, une histoire parallèle à celle de la littérature. C'est évidemment les avant-gardes, mais pas que les avant-gardes. Sont des tentatives qui, parfois, dans leur inaboutissement, en disent plus long sur la vérité de la littérature que les publications les plus officielles, disons.
Ce sont des lieux d'expérimentation, en quelque sorte.
D'expérimentation. Et
des ballons d'essai.
Oui, et puis on peut publier dans des revues ce qui aujourd'hui serait refusé un peu partout.
Invendable.
Oui, absolument. Puisque précisément, les revues ne se vendent pas, mais c'est leur chance. Moi, je pense que la littérature, elle est plus chez certains penseurs que dans les romans de rentrée, comme on dit. Et la revue L'Art du Bref, que j'avais fondée avec Millet, puis la revue Ligne de Risque, qu'on a fondée François Méronis et moi.
Qui existe toujours et qui se porte bien, ma foi.
Ça nous permet d'interroger, par exemple, la pensée védique. Ça nous permet d'aller voir du côté du taoïsme, d'aller voir du côté de Leib Hochmann, un écrivain splendide qui a écrit directement Yiddish, un roman en 1968, qui à mon avis est un des plus grands romans du XXe siècle, à pas aveugle de par le monde, seulement traduit en français d'ailleurs, Yiddish et français. On a consacré un numéro à ça. Oui.
Absolument, le dernier numéro, oui. N'est-ce pas. Je crois. Donc en effet, dans la mesure aussi où c'était Rachel Hertel qui l'a traduit et qui est professeur à la Sorbonne.
Très grande traductrice de Yiddish.
C'est la grande spécialiste du Yiddish en France. Alors, on va peut-être parler des romans que vous avez publiés justement en 96, en même temps que vous travailliez à l'époque à la revue L'Art du Bref. Par exemple, Les Petits Soldats. Et puis ensuite, il y a eu, pas tout de suite, mais il y a eu un roman étrange qui s'appelle Introduction à la mort française.
Oui, c'est un livre très étrange que j'ai mis beaucoup d'années à écrire parce que, entre-temps, j'ai brûlé un énorme manuscrit de 700-800 pages. Et cette espèce de sacrifice et ce sur quoi, je peux dire, tout ce que j'ai écrit et pensé se fonde.
C'est-à-dire que... C'était quoi ce manuscrit brûlé?
Je crois que seul Philippe Solers l'a lu. C'est mon éditeur. Mais c'est un livre qui était tout à fait inabouti, qui était immature au sens un peu fou de Gombrowicz. Mmh. Et en fait, ne pas le publier, ça a été ma chance parce que c'est comme si peut-être les phrases telles que je les rêvais et telles que je n'arrivais pas encore à les écrire avaient traversé leur propre feu. Mmh. En fait, ça a été la publication en général est comme c'est un passage à l'acte et c'est un tremplin. Là, ça a été tout le contraire. Ne pas publier un livre m'a permis d'en écrire. C'est comme s'il n'était pas écrit ce livre.
Et, vous savez qu'il y a eu quand même quelques précédents. Hein. Certains écrivains ont brûlé leurs livres. Par exemple, c'est le cas d'Aragon. Oui. Son livre a été sauvé, je crois, par Nancy Cunard.
Mais en partie, oui, La Défense de l'Infini.
Voilà, La Défense de l'Infini. Il l'avait jeté au feu à Venise, justement. Oui. Et puis, il y a eu aussi, je crois, un grand manuscrit de Michel Foucault. Je crois presque 1000 pages aussi sur Manet. Qu'on n'a jamais retrouvé.
Ah oui, il y a quelques extraits. Je savais pas qu'il y avait tout un livre de Foucault. Ouais. En tous les cas, cette espèce d'auto-da-fé, je peux dire que c'est pour moi le démarrage véritable. C'est pas mon premier roman, c'est de là que ça naît. Disons l'exigence un peu particulière, plus précise que je me suis mis à avoir concernant le mot de littérature. Il y a une interrogation comme ça dans le Talmud où on dit tu cherches du feu, va chercher dans la cendre. Je pense que j'ai écrit à peu près tous mes livres là, à ce moment-là. Je les ai brûlés en un seul. Et je ne fais qu'essayer d'aller chercher dans les cendres quelque chose qui a eu lieu pendant un an.
Je n'ai pas lu, par exemple, l'introduction à la mort française, mais j'ai lu vos romans et j'ai constaté, est-ce que c'était aussi le cas dans ces premiers livres, que le démarrage, c'est une déliaison.
Oui.
Quelque part, tout ce qui vous retient est absolument largué.
Oui, je pense que c'est le sujet libre et répétitif de la plupart de mes romans. Je ne m'en rends pas bien compte, mais effectivement, Cercle raconte ça, l'histoire d'un homme qui...
Je cherche l'Italie aussi.
Hein. Je cherche l'Italie aussi. En un sens, Les Renards pâles, c'est l'histoire de cet homme qui va vivre dans une voiture, est fondée sur une rupture, mais... Dans mon esprit, il s'agit de quelque chose qui est bon, qui relève d'un refus, disons, pour le dire de manière banale, d'un refus de la société, mais qui est plus obscurément gnostique. Les personnages de ces livres-là, les narrateurs, sont des êtres qui se sentent séquestrés sur Terre, qui se sentent comme des étrangers pris au piège, en exil. Pris au piège peut-être par un mauvais démiurge qu'on appellerait aujourd'hui la société absolue, et qui cherche à rejoindre à travers un voile qu'il faudrait déchirer ou brûler, qui cherche à retrouver un rapport avec quelque chose qu'ils n'osent pas, ces narrateurs nommaient directement Dieu, qu'ils n'osent pas appeler le sacré, mais qui de fait relève de cette dimension-là. Ce sont des histoires qui se passent aujourd'hui, mais qui sont peut-être des quêtes... métaphysique ou spirituel. Enfin, je pense que pour moi, l'acte de penser ou d'écrire, de vivre, peut-être tout simplement de respirer, commence à partir du moment où on a tranché un lien. Le problème, c'est que ça peut être trancher un lien, ça ouvre évidemment à la négativité. En tranchant, on respire plus, mais on peut ne plus respirer du tout.
Oui, on prend un risque.
Voilà, donc ce que raconte mes récits, c'est l'entrée dans une zone à la fois jouissive et inconfortable, celle où on s'expose, disons, à peut-être parfois une forme de folie, peut-être parfois, très peu, à une forme d'héroïsme un peu auto-ironique, disons, mais surtout à une exploration de ce qu'il en est de ce qui vient, de ce qui arrive lorsqu'on largue les amarres. Je pense que ce qui arrive lorsqu'on se rend disponible à ce qu'on pourrait appeler l'existence est toujours spirituel. Qu'on croit en Dieu ou pas. S'imagine qu'on croit ou qu'on s'imagine qu'on croit pas, de toute façon, ce rapport est spirituel. Ce qu'il y a de plus terrible, c'est Kierkegaard, je crois, qui disait ça, ce qu'il y a de plus terrible, c'est l'esprit. Dans terrible, il faut aussi entendre ce qu'il y a de plus annonciatif, de plus donné.
Il y a aussi le mot terreur dans terrible. Hein.
C'est ce qui... C'est ça. Au fond, le terrible, c'est ce qui ne va pas sans dire. C'est aussi l'épreuve de l'amour. C'est la rencontre. Je ne sais pas, souvent je me figure le rapport qu'on peut avoir, en tous les cas que j'essaye d'avoir avec le langage, comme un saut dans le vide. Mais très étrangement, dans mes meilleurs moments, je saute, mais je ne tombe pas. arriver à non pas à suspendre, mais à accompagner un saut sans en mourir, c'est ce que j'appelle la littérature. Enfin, c'est ce à quoi je pense que la littérature se consacre, mystiquement ou de manière athée. D'ailleurs, on peut être un mystique athée.
Tout à fait.
Et je suis le saut dans le vide, voilà. Quand j'écris une phrase, c'est-à-dire je ne suis pas moi, la littérature la plus subjective ne me plaît pas tellement. Enfin, le racontage de salade intime, ça me semble relever d'autre chose que de la littérature. Quand je dis je suis le saut dans le vide, ça n'est pas moi, c'est quelqu'un qui advient du langage, voilà. Du langage enfin arrive.
C'est comme ça depuis Les Petits Soldats, puis l'introduction à la mort française, déjà.
Oui, alors, Introduction à la mort française, c'est un livre un peu bizarroïde.
Pourquoi la mort est-elle française, tiens?
Ah, mais j'ai un rapport un peu compliqué à la France, disons.
Papou,
Alors, la mort n'est pas seulement française. Enfin, Paul Celan disait, parlait de la mort allemande.
Oui.
Il se trouve qu'il y a un district très particulier pour moi. Hein. Dans ma folie personnelle, il y a un district très particulier de la mort qui relève du territoire français historique. Moi, je suis fils de militaire et avant de lire de la littérature, j'ai lu beaucoup d'histoire militaire. Enfin, j'étais assez
d'où d'ailleurs le récit Les Petits Soldats, un peu une part d'une autobiographie tout de même.
Là, effectivement, c'est
vous
un récit
à la Flèche,
de mes années au Prytanée militaire de la Flèche, voilà, où j'étais destiné à devenir militaire et je me suis là
la
aussi
flèche
j'ai rompu.
Descartes a été
absolument.
Élève également.
Du temps où c'était un collège de jésuites. Enfin, oui. C'était un lieu qui a été dédié à Henri IV. Puis il y a son cœur qui est là-bas. Descartes a été pensionnaire. Et il y a des anecdotes amusantes dans la vie de Descartes par Adrien Baillet. Descartes, qui avait déjà une faculté méditative assez exacerbée, avait été repéré par ses professeur, et il avait eu la possibilité, puisqu'il était très indolent, comme vous savez, il avait eu la possibilité de ne pas aller en cours le matin, et donc il restait au lit pour lire. Voilà. Et quand
d'ailleurs,
j'étais au Prytanée, j'en ai fait la demande, moi aussi, mais ça m'a été refusé.
c'était plus les jésuites, alors.
Non.
Mais d'ailleurs, il est, pour terminer un peu cette histoire, oui. Le jour où il a dû se lever très tôt chez la reine Christine de Suède, oui. il est mort, justement.
Oui. Il est mort.
C'est quelqu'un qui aimait effectivement flâner.
Comme quoi, on peut se coucher de bonne heure pendant longtemps, mais se lever tôt, non, c'est une autre affaire. Mais non, le rapport, disons, polémique que j'ai avec la France, Introduction à la mort française, c'est un rapport, disons, politique. Sur Introduction à la mort française, c'est un livre sur la culpabilité française. C'est l'histoire d'un homme de 30 ans qui ne sait pas que parce qu'il est français, il a un savoir un peu mortifère en lui, une sorte de maléfice. Et lorsqu'il se promène dans les rues de Paris, tous les morts lui parlent. Les morts de Vichy, les morts de la République, les étrangers indésirables, comme on disait à la fin des années 30 en France. Tous les gens qui ont été internés dans les camps en France lui parlent directement. Lui demande de l'écouter et de le secourir. Et je voulais parler de ça, enfin, de la, non pas du devoir de mémoire, c'est une énoncé qui m'insupporte un peu, mais,
oui.
Mais de la manière dont la mémoire est de toute façon toujours là, physiquement, qu'on se promène dans une rue qui n'a l'air de n'avoir aucune identité, à Paris, en France, tout remonte, tout revient. Et c'était l'époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacques Chirac avait fait, comment dire, au Panthéon, il y avait eu une immense commémoration liée à Malraux. Et les cendres de Malraux, je crois, avaient été emmenées jusqu'au Panthéon. Et Jacques Chirac avait fait une espèce de discours que j'avais trouvé particulièrement délirant sur le rapport entre précisément la France, la mort, les noms. Et j'en avais conçu comme ça, j'avais produit un texte un peu halluciné, donc Introduction à la mort française. C'était comme si le président de la République lui-même signait l'histoire de la littérature de manière un peu dingue.
Parmi les archives que vous avez souhaité nous faire entendre, Yannick Hennel, cette nuit, il y a donc un extrait, c'est-à-dire une émission d'une série qui s'appelle Histoire de peinture et qu'on doit à Daniel Arras. C'est une émission qu'il a enregistrée pour France Culture très peu de temps avant sa mort, en 2003. Et l'une de ces émissions, celle que nous allons entendre grâce à vous, s'appelle « La Vierge échappe à toute mesure ». Enfin, je trouve que le titre est magnifique. Et puis, il s'agit aussi de parler d'une fresque qui vous est très chère, Yannick Hennel, puisque vous avez écrit sur cette fresque, mais vous avez fait plus aussi, vous avez pratiquement participé, collaboré à une œuvre collective. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, j'ai eu la chance de vivre 4 ans à Florence, en Italie.
Et d'abord à la Villa Médicis.
D'abord à la Villa Médicis, à Rome, voilà. Mais puis après, donc 4 ans à Florence, très récemment. Et j'habitais non loin du couvent San Marco, où Fra Angelico a réalisé les fresques des cellules, des moines, des dominicains dont il faisait partie. Et plus particulièrement, il a réalisé une fresque qui est très célèbre, qui est celle de l'Annonciation du haut de l'escalier, donc l'Annonciation du corridor. Et il se trouve qu'à force d'admirer cette fresque, à force d'y aller, de la voir par temps ensoleillé, par temps de pluie, par temps grisâtre, et d'y amener des amis, dont des historiens de l'art, des amis artistes, on s'est demandé à plusieurs comment est-ce que, au moment de sa conception, c'est-à-dire au tout début du Quattrocento, comment est-ce que cette fresque était éclairée, entre guillemets, comment est-ce qu'on pouvait bien la voir sans cette affreuse lumière à néon qui maintenant nous offre les œuvres d'art tout en mettant une distance artificielle entre elle et nous. Et on s'est mis à enquêter sur cette lumière, ce que j'appelle la lumière réelle, en jouant avec la théologie. Et on s'est aperçu que Fra Angelico avait profité d'une fenêtre qu'on trouve toujours sur la gauche quand on regarde quand on regarde la fresque qui est à
fenêtre qui a été agrandie entre-temps.
Qui a été agrandie effectivement entre-temps. Et comme il se trouve que cette fresque s'adressait expressément aux moines qui passaient devant à l'aube, on a voulu voir l'Annonciation à l'aube. Et pour parfaire encore cette expérience, on s'est imaginé qu'il fallait la voir le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le 25 mars. Sachant qu'à Florence, l'ancien calendrier commençait le 25 mars. L'année commençait le 25 mars avec la Vierge. Et donc on a réussi, après moult palabres administratifs, à avoir l'autorisation à 4h30, 5h du matin d'entrer, donc avant les visiteurs, avant l'ouverture du musée, d'entrer...
Et en pleine nuit, en fait.
Donc en pleine nuit, au couvent San Marco. Avec des amis, on a branché des appareils photographiques et 2 caméras. C'est Caroline Duchâtelet, donc une artiste plasticienne, qui a filmé la scène. Et puis moi, je me suis allongé comme un chasseur embusqué dans l'escalier, avec une petite lampe de poche et des cahiers. J'ai tenu un journal, minute après minute, de l'arrivée de la lumière, puisque, de fait, toute électricité éteinte, la lumière arrive, elle finit par arriver. Et donc j'ai vu, et ça a été filmé, et c'est parfois montré à Paris par mon amie Caroline Duchâtelet, dans des galeries, on a vu l'Annonciation in situ. C'est-à-dire que de fait, on a vu la lumière arriver peu à peu sur la fresque, la faire sortir du mur, faire respirer ses pigments, s'ouvrir d'abord à travers le jardin, à gauche, le jardin d'Éden, enfin le jardin d'Ève, puis se diriger vers la nouvelle Ève, qui est la Vierge, en passant par ce camailleux de vert, de bleu et de rouge, constitué par les ailes de l'ange. Et à un certain moment, de fait, la lumière était si forte qu'elle a brûlé, si je puis dire, cette fresque. Il y a un moment très particulier que j'essaye de décrire dans Je cherche l'Italie, où la lumière enflamme l'ange, l'efface, et se dirige directement vers le ventre de la Vierge.
C'est la parole comme lumière, en fait.
Voilà, et de fait, ce qui a lieu, ce qui a été pensé par Fra Angelico en 1420 à peu près, c'est l'Annonciation comme acte, c'est-à-dire qu'on voit la lumière comme mouvement de l'esprit, comme acte de naissance. Voilà.
Absolument. Donnant naissance à un corps.
Oui.
Alors, deuxième archive. Ça, on est tout à fait dans un autre monde, quoique. Quoique, puisque de toute façon, on retrouve aussi le même livre, hein, Je cherche l'Italie. Le rameau d'or, le roi magicien. Alors c'est une histoire assez étrange qui vient d'ailleurs de l'énorme travail de James Fraser. Et alors le roi magicien, le rameau d'or, c'est le titre du recueil de James Fraser qui a récolté et réécrit au fond toutes les histoires de dieux qu'il a pu entendre. Ouais.
Aussi, il est considéré comme l'un des premiers anthropologues. Enfin,
oui, il est le premier.
Il est le premier. Oui. Bon, il est souvent. Aujourd'hui, on le prend un peu moins au sérieux. Mais de fait, il se trouve que Le Rameau d'Or, c'est un immense livre qui est
plusieurs volumes, hein.
Oui, c'est une sorte de réservoir de mythologie païenne liée à la fécondité. En fait, c'est un livre sur le chêne. Et les premières pages sont extraordinaires, sont merveilleuses. Je pense que Bataille, dont on va parler après, je pense Georges Bataille, était obsédé par ce mythe. Fraser a reconstitué une royauté secrète, une royauté sacrée, qui aurait eu lieu avant la naissance de Rome, avant la naissance de la royauté romaine et de l'Empire romain. Et elle a lieu à 35 kilomètres de Rome, autour du lac de Némie. Moi, j'habitais à Rome un petit peu, donc j'y suis allé souvent. C'est dans un ancien cratère, dans le Latium, paysage merveilleux, entouré d'une immense forêt qui était dédiée à Diane. Et dans ce lieu, comme souvent en Italie, au départ des royautés, il y a des bandits et des voyous. Et ce lieu était un sanctuaire dévolu aux criminels, à Oreste au départ, enfin, qui avait importé le culte de Diane.
C'est-à-dire Rome même et a été fondée
absolument,
par des voyous, hein,
absolument.
par des gens qui étaient jetés hors de la ville.
Les hors-la-loi, les parias.
Les parias.
Et là, de fait, le culte est très particulier. Fraser explique ça très bien. C'est le culte du roi du bois, celui qui est le souverain, l'espèce de voyou souverain, qui est le prêtre de Diane, est roi tant que personne ne l'a tué. Celui qui tue le roi devient le roi. Il n'y a pas de... La souveraineté, au fond, ne relève d'aucune éligibilité, mais elle relève d'une exposition à la mort. Et cette intuition païenne, si je puis dire, je la trouve extraordinaire. L'idée que la souveraineté n'est pas politique, elle porte sur l'exposition ou non à la mort. Donc quelqu'un comme Georges Bataille va être obsédé par ça, enfin. Et je dois dire que cette idée d'un sacré qui est sauvage, d'un sacré qui n'est jamais institutionnalisable, d'un sacré qui n'existe que le temps que la lame brille sur la gorge de quelqu'un qu'on va sacrifier, cette idée me parle. Cette idée, je pense, est irrécupérable. C'est à la fois l'idée la plus religieuse, et c'est l'idée qui échappe à toutes les religions et à toutes les sociétés. Je pense que ce qui a lieu, et là évidemment je passe d'un territoire à un autre, mais ce qui a lieu entre Abraham et Isaac relève de ce qu'on appelle la consécration, relève d'un même éclair. Le moment où Isaac voit le couteau s'avancer vers sa gorge, c'est ce moment qui le consacre. En un sens, c'est lui qui devient le souverain.
Oui.
Et voilà, je pense que la littérature... Je ne sais pas si elle a à voir avec ça, je pense que oui, mais en tous les cas, elle doit s'approcher de ça, de ce moment extatique, ce moment où peut-être on meurt, l'instant de la mort, comme dit Blanchot, mais si l'on en réchappe, alors quelque chose naît qui relève d'une parole singulière. Et voilà, le roi du bois, tel que Fraser, en 10 pages, en raconte l'histoire, est pour moi initiatique, voilà.
Tout ça va s'enchaîner magnifiquement. La magie en Afrique noire, Marcel Griaule. Alors, cette archive de extrait de connaissances de l'homme qu'on entend et qui date des années 50, cette archive, elle est passionnante, mais surtout, elle est liée à un de vos livres, Les Renards pâles.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Griaule, pourquoi est-ce que vous êtes un lecteur de Griaule? Je sais que son premier livre a été préfacé par Marcel Mauss.
Oui.
Qui était le très très grand anthropologue français,
oui.
Le maître de l'anthropologie, et le maître de Bataille aussi, par ailleurs.
Absolument.
Mais qu'est-ce que cette magie africaine a à voir avec les livres, les romans de Yannick Enel?
Alors il y a deux choses, il y a mon amour pour Michel Léris. Il se trouve, comme vous le savez, que la grande expédition ethnographique Dakar, Djibouti, de 1933-1934, comprenait Michel Léris et Marcel Griaule, entre autres. Et c'est là, à ce moment-là, durant cette expédition mythique, que les Dogons du Mali, ceux de la falaise de Bandiagara, donc à l'est du pays, sont devenus publics. Et Griaule est devenu quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, s'est consacré entièrement à cette théogonie, dont il a tout de suite dit, à cette cosmogonie, dont il a tout de suite dit qu'elle était encore plus merveilleuse que tout ce que les Grecs nous ont raconté, encore plus beau que la théogonie d'Hésiode. Et il a voué sa vie à ce peuple, à cet esprit, et très particulièrement à l'une des divinités un peu déviantes des Dogons, qui s'appelle le renard pâle. Moi, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Les renards pâles », en hommage à cette divinité-là, parce que c'est une divinité anarchiste. Enfin, c'est comme ça que je le dis, disons. Lorsque le démiurge accouche de la création en pays Dogon, vous savez que les Dogons, ce sont des gens qui sont opposés à l'islam depuis le XIIe siècle et qui sont toujours encore aujourd'hui en possession indépendante, si je puis dire, de leur croyance, de leur coutume. Et tout ça pour dire que bien que ce soit des agriculteurs et un peuple pacifique, ce sont spirituellement des guerriers, enfin, qui savent se défendre d'esprit à esprit. Et donc au moment où le démiurge accouche de la création, l'un de ses fils se met en travers du placenta. Il n'est pas d'accord. Il ne veut pas que la création soit. Non, il veut pas naître. Voilà, de l'inconvénient d'être né comme Nicio. Enfin,
être ou ne pas être.
Voilà. Et donc c'est le renard. Enfin, ça n'est pas encore le renard, mais toujours est-il que ce petit démon très combatif va être maudit par son père et par sa mère et envoyé asséché. Ce sont des agriculteurs, donc pour eux la parole au principe est humide. Donc ils vont lui assécher son être, l'envoyer au désert et le transformer en animal. Il va devenir un renard pâle, donc un renard au pelage désertique, qui sera privé de parole et qui va s'exprimer avec ses pattes. C'est aussi donc une petite divinité de l'écriture, c'est pour ça qu'elle me plaît. Et aujourd'hui encore, en pays Dogon, des prêtres tracent sur le sable des petites cases divinatoires en posant des questions au renard pâle. La nuit se passe et au matin, on relève les empreintes qui disent ce qu'il en est des présages et du caractère faste ou néfaste de la journée à venir. Quand j'ai voulu écrire un roman politique se passant en France et rêvant ou essayant d'accomplir ce fantasme qui consisterait à fédérer tous ceux qui n'ont rien,
les
invisibles, voilà, les sans-papiers, les sans-emploi, quand j'ai voulu écrire ce roman sur les invisibles qui entreraient dans ce qu'on a appelé au XXe siècle la Révolution, enfin qui prendraient comme ça les armes et la parole, j'ai pensé que ce petit groupe de guérilla pouvait s'appeler les renards pâles. D'une part parce que dans ce roman, ils sont presque tous africains, parce qu'ils sont presque tous noirs, et parce qu'ils revêtent des masques, comme les Dogons en ont de merveilleux qu'on peut voir.
Oui, un grand art Dogon.
Au Quai Branly.
Des bijoux aussi magnifiques.
Des bijoux. Voilà, le Griaule, je suis heureux d'avoir qu'on puisse écouter la voix de Griaule ce soir. Griaule est c'est un ethnographe et un ethnologue assez contesté parfois, mais c'est quelqu'un qui a fait naître pour les Occidentaux ce qu'il en est des Dogons.
La prochaine archive. Je suis très heureuse de vous entendre parce que parler de Georges Bataille, des idées et des hommes, l'art dans ses rapports avec l'angoisse. Georges Bataille, c'est quand même votre écrivain, Yannick Enel. Vous le lisez, vous le relisez. Il y a une proximité avec Bataille. Je ne sais pas à quoi elle tient, vous allez nous le dire. Cette archive est quand même particulièrement intéressante parce que Bataille parle dans cette émission avec des tas de gens très intéressants et d'ailleurs extrêmement intelligents, comme Georges Poulet par exemple, ou encore Claude Roy ou Jean Lescure. Et visiblement, le malentendu est absolument radical. C'est Homme Rouge qui fait l'émission, un homme brillant, entre tous. Et personne ne comprend ce que dit Georges Bataille. C'est très très intéressant. Il y a une espèce de malentendu qui dure pendant toute l'émission. Et au fond, les choses restent en suspens. Bataille n'arrive pas à faire passer ce qu'il a envie de faire passer sur l'angoisse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous avez entendu cette archive, Yannick Enel?
Ah, cette émission est merveilleuse parce qu'elle dit tout sur Georges Bataille, sur la solitude de Bataille.
Oui.
Je pense que parfois je me demande si on n'est pas encore. C'était Beckett qui disait nous sommes trop décadents pour lire Joyce. Je me demande si on n'est pas encore trop décadents entre guillemets pour comprendre Bataille. Durant cette émission, on entend un homme qui est à la fois l'être sulfureux qu'on connaît, c'est-à-dire l'auteur de récits érotiques les plus précis et qui ont peut-être le plus de rapport avec une forme de satanisme. Enfin. Mais on entend aussi celui qui sait parler de Lascaux, qui s'est parlé depuis l'immémorial. Donc Bataille, pour moi, tel que je l'aime, c'est l'homme qui, d'une seule voix, écoute et raconte Sade et Lascaux en même temps. Se tenir à ce carrefour-là, c'est quand même, ça relève d'une expérience de l'être pour le moins profonde. Ce qu'il y a de très beau dans cette émission, c'est que, alors même qu'on demande à chacun un exemple dans l'art occidental ou mondial qui serait en rapport avec ce qui nous sauve, disons, de la peur, de l'angoisse, Georges Bataille parle de la trompette,
des fanfares,
voilà, des fanfares entonnées par les armées au moment au moment d'aller se battre, la trompette guerrière, voilà. C'est-à-dire cet art entre guillemets minimal.
Par ailleurs, une figure biblique, hein, la trompette
absolument,
guerrière.
Absolument. C'est aussi ce qui va détruire effectivement une cité, mais c'est ce qui va susciter le désir, puisque cette trompette s'adresse à ceux qui vont mourir. Et je crois que Bataille parle de ce commencement d'ivresse qui doit faire passer de l'angoisse au ravissement. Et donc il prend de manière provocante, dirait-on, mais au fond Bataille n'était absolument pas provocant, il était comme ça, c'est tout. Il prend l'exemple le plus rudimentaire, peut-être le plus vieux au monde, la trompette guerrière.
Et le plus massif, et au fond aussi le plus populaire, c'est-à-dire le plus commun, le mieux partagé.
Absolument, mais je pense que Bataille est quelqu'un qui est... plus j'y pense, effectivement, vous avez raison, c'est un écrivain qui m'accompagne, dont j'ai lu les 12 tomes d'œuvres complètes. Enfin, c'est ahurissant de voir ce à quoi il s'est intéressé toute sa vie. Enfin, plus j'y pense, plus je me dis que Bataille n'était absolument pas un écrivain élitiste, même s'il était au courant de tout, même s'il lisait 30 livres par mois. Même s'il était un homme qui a fondé les revues les plus exigeantes, de critiques à documents, mais c'était aussi quelqu'un dont la simplicité relevait d'une disponibilité à l'immémorial. Et donc voilà que cet homme va dire, voilà, pour moi, Phèdre, c'est très beau, ils vont parler de Phèdre, cette émission est géniale, enfin vraiment, Phèdre, c'est très beau, le marquis de Sade, c'est formidable, mais la trompette guerrière dit tout. De nos peurs, de notre ivresse, de la communauté, de la solitude, de comment être à plusieurs, de comment affronter la mort, de comment ne pas se dérober. Et voilà, il y a une espèce de... Alors, c'est peut-être bizarre d'employer le mot sagesse à propos de Bataille, s'il y a bien eu quelqu'un qui n'était pas sage du tout, c'était bien Bataille, mais au sens le plus philosophique, c'est-à-dire quelqu'un qui va briser la philosophie pour entrer dans un autre lieu, un peu plus incertain, donc appelons ça la sagesse. Je dirais que Bataille se situe là, oui. Bataille est quelqu'un qui entend ce qu'il y a dans la trompette guerrière.
Alors ce qui est intéressant aussi chez Georges Bataille, c'est que c'est un écrivain savant. Et donc, d'une certaine manière, c'est très précieux, le savoir. Est-ce que vous pouvez justement nous dire un peu comment vous, Yannick Enel, envisagez le rapport entre le savoir, la connaissance, la lecture de la philosophie, par exemple? Et la littérature, est-ce qu'il y a un rapport ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ou est-ce que ce sont deux préoccupations qui sont séparées dans vos textes ou non? D'un côté, il y a effectivement dans la revue, par exemple, Ligne de risque, beaucoup de textes théoriques.
Ouais.
peu dans vos romans, où la théorie est là, mais elle est romancée, d'une certaine manière, elle est fictionnée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous jouez sur ces tableaux? Est-ce que Bataille aussi jouait sur ces deux tableaux?
Dans l'idéal, j'aimerais faire coïncider la pensée et la poésie. J'aimerais, pour moi, la littérature, elle a été lancée par cette coïncidence-là. Les romantiques allemands, enfin Novalis, l'Athénaüm, les frères Schlegel au début du XVIIIe.
Et même Sade, d'une certaine manière,
Sade, absolument.
Qui introduit de la philosophie
Diderot,
en permanence.
Enfin, et Diderot, bien sûr. On peut dire que la littérature, au sens strict, elle naît là, à ce moment-là. Enfin, un peu avant la Révolution française et un peu après. Et voilà, j'aimerais que la littérature puisse s'approcher de cette coïncidence-là. Alors, j'essaye d'écrire des romans qui soient secrètement des essais et des essais qui sont secrètement des fictions. C'est pas évident. Et en tous les cas, Bataille lui-même parlait, il a une très belle formule, il parle à un moment du chien du savoir et du loup du non-savoir. Alors pour moi, l'acte poétique, l'acte littéraire, consisterait un peu, vous savez, comme ce jeune homme tiré par des cavales dans Parménide qui va sur le chemin de l'être, c'est d'être précédé par un chien et un loup en même temps, d'être tiré comme ça, par le savoir et le non-savoir.
C'est aussi une métaphore de La Fontaine, hein. Le chien, c'est ce qui a un collier, c'est ce qui est domestique.
Oui, absolument.
Et le loup, c'est ce qui est sauvage,
c'est celui qui est
sans bride, justement.
Mais voilà, ce qui me fait préférer, notamment pour les émissions qu'on va passer cette nuit, ce qui me fait préférer bien souvent l'anthropologie, la philosophie ou la religion à la littérature qui souvent n'est pas à la hauteur en fait de cet envoi, en fait de ce coup de dé, c'est que la littérature pense trop peu. La littérature pense, la vraie littérature, je sais pas, Musil, Kafka, Beckett, mais celle que je cherche effectivement aujourd'hui, enfin modestement, devrait pouvoir effectivement faire coïncider dans son corps un peu étrange, son corps presque luciférien, le chien et le loup, le savoir et le non-savoir.
Et puis, dernière archive de cette première partie de votre nuit rêvée, Yannick Hennel, on va entendre Bernard Lamarche-Vadel, qui a été un de vos amis, que vous avez beaucoup aimé, bien connu. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet écrivain qui est mort jeune d'ailleurs et qui s'est suicidé?
50 ans, oui.
Oui. Moi, je l'ai rencontré quelques fois dans les couloirs de la radio. Il était d'une élégance extraordinaire. C'était un dandy.
Absolument. Il y a une formulation de Rimbaud. C'est la science, l'élégance, la violence. Avec trois points d'exclamation. C'est Lamarche-Vadel. Il était très connu avant tout en tant que critique d'art. C'est lui qui a acclimaté Joseph Beuys en France, disons, pour donner un exemple. Mais il se trouve que depuis toujours, il se pensait, se voyait comme artiste, même du temps où il n'avait rien réalisé. Et vers la fin de sa vie, en très peu de temps, quelques années, en 4-5 ans, il a écrit trois romans extraordinaires, Vétérinaire, Toucas et Sa vie, son œuvre. Et il se trouve que... Et puis il s'est tué, comme il avait toujours dit qu'il ferait... Il l'avait dit pendant 20 ans, 30 ans. Et il se trouve que l'œuvre et la personne de Lamarche-Vadel, avec qui on a beaucoup travaillé, François Méronis et moi, au tout début de Ligne de risque, enfin, il était souvent présent dans les numéros, l'œuvre et la personne de Lamarche-Vadel sont fondées sur quelque chose qui relève du sacrificiel, d'un rapport au sacré, mais un sacré qui aurait été entièrement repris par l'art. Son Dieu, ses déesses, c'est l'art. Et en tant que tel, Lamarche-Vadel, et vous qui l'avez croisé, peut-être même interviewé, vous avez vu, ça relève de l'héroïsme. C'est une des rares fois où je me suis dit, tiens, ce vieux concept un peu creux, peut-être un peu ridicule et pas tellement, finalement, ça a du sens, l'héroïsme. Je pense que Lamarche-Vadel, c'était un héros. Et je me dis que la littérature, enfin cet acte-là qui est de la pensée et de la grâce en même temps, peut-être ça a à voir avec l'héroïsme. Lacan avait deux définitions pour l'héroïsme, pour le héros. Le héros, il disait que c'est celui à qui on a fait du tort. Et Lamarche Vadel est quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec des histoires
d'injustice. Il avait un père
épouvantable. Entre autres, et la République française aussi lui a volé une œuvre d'art.
Enfin, ah, mais oui,
c'était,
en
il
effet.
Était toujours en procès. Et la deuxième définition de Lacan, du héros, c'est celui qui ne cède pas sur son désir. Et cet homme, je dois dire, est le premier qui m'a fait penser ça, son contact, un contact très gratifiant. Je me suis dit, voilà un homme qui ne cède pas sur son désir. Donc un véritable artiste, donc un héros.
Qu'est-ce qu'on peut lire de Lamarche Vadel?
Je crois que son...
Yannick Enel.
Je pense que son... Bah, j'ai cité ses trois romans, La Toucasse, Vétérinaire et Sa vie, son œuvre. Il y a aussi des poèmes.
Oui.
Dans l'émission que nous avons choisie, il parle de du chien les bonbonnes. C'est un poète très très étrange, un peu compliqué, ironique, très miroitant, un peu renard lui aussi, avec un pelage un peu maléfique. Et je pense que son plus beau livre s'appelle Toucasse. Et c'est un livre d'ailleurs, un roman publié chez Gallimard, la collection L'Infini. Et c'est un roman qui est très drôle parce qu'il met en scène... Vous vous souvenez, à une époque, il y a une quinzaine d'années, en France, on abattait les animaux en masse, qui étaient les bovins, qui étaient... C'était la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Ah oui, oui, la vache folle.
La vache folle.
Voilà.
C'est un roman apocalyptique qui se passe à la campagne, où on tue à longueur de pages et de journées des animaux. Il n'y a que des animaux morts partout. C'est la contre-arche de Noé. Et le narrateur est seul dans une espèce de château. Il lit Bossuet à longueur de journée.
C'est lui, enfin.
C'est lui, c'est absolument lui.
Et, parce qu'il vivait dans un château.
Mais je pense que toute sa vie...
Il devait lire Bossuet, en effet, toute la journée.
Et les
histoires d'animaux morts, il avait un père vétérinaire qui...
Et il s'était entouré d'une meute de chiens. Je crois qu'il avait 7 à 8 chiens autour de lui.
Ah,
et donc, il a,
très étrange.
Il a fait de cette... Ouais. Il a fait de sa vie une espèce de blason seigneurial, enfin, défiant la France.
Donc, je vais rappeler à nos auditeurs que nous allons entendre Histoire de peinture, Daniel Arras, donc La Vierge échappe à toute mesure, la fresque de Fra Angelico à Florence. Ensuite, un livre des voix, Le Rameau d'or, Le Roi magicien, donc une histoire de royauté mise en place par James Fraser pour expliquer ce moment où, au fond... ce moment de basculement entre la vie et la mort qui est inhérente à la royauté et au pouvoir, en fait, sans doute. Ensuite, La magie en Afrique noire, Marcel Griaul. Puis, Des idées des hommes, l'art dans ses rapports avec l'angoisse, dans lesquels on entend Georges Bataille. Et enfin, Bernard Lamarche Vadel, dans les matinées de France Culture, c'était en 1976. Yannick Enel, on écoute ses archives, et puis on se retrouve juste après pour une deuxième partie de cette nuit. Est-ce que vous restez avec nous, n'est-ce pas?
Bien sûr, oui.
Voilà.
Bien sûr.
Merci beaucoup, à tout à l'heure.